France Inter, le 18-20.
Ce sont deux décisions de justice qui ont lancé le débat parce qu'elles nous ont tous interrogés. À Pontoise, un homme de 28 ans, d'abord poursuivi pour atteinte sexuelle et non pas pour viol, après une relation sexuelle avec une fille de 11 ans, parce qu'on a considéré qu'il y avait eu consentement. Depuis, le parquet a ouvert une information judiciaire pour viol. L'autre affaire, c'est en novembre, un homme de 30 ans, cette fois acquitté parce que le viol n'a pas été caractérisé, après une relation sexuelle, là aussi, avec une jeune fille de 11 ans. La société, les politiques se sont emparés du sujet en posant la question de l'âge du consentement. Le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes va trancher à la fin du mois, mais la question demeure, y a-t-il un âge au-dessous duquel une relation sexuelle avec une personne majeure serait par nature non consentie? Si oui, est-ce que c'est 13 ans? Est-ce que c'est 14 ans? Est-ce que c'est 15 ans? Et pourtant, la loi est là, elle interdit théoriquement toute relation sexuelle avec d'un majeur, avec un mineur de moins de 15 ans. Y a-t-il une majorité sexuelle et une maturité sexuelle? Est-ce qu'on doit séparer les deux? Et plus loin encore, ne nous bouchons pas les yeux, les lignes aujourd'hui sont brouillées par un accès trop facile à la pornographie. Est-ce que c'est dans cette direction-là qu'il faut agir? Pour interdire quoi? Et surtout, comment? Est-ce que l'éducation sexuelle pêche parce qu'elle est trop faible? Le débat est ouvert et soyez les bienvenus.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Anne, c'est vous qui commencez. Soyez la bienvenue et on vous écoute.
Oui, je vous remercie. Écoutez, j'ai téléphoné parce que j'ai réagi à une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, peu avant 19h. Vous avez parlé d'une jeune fille de 11 ans. Et moi, je suis mère de 4 enfants, dont 2 filles, qui ont maintenant entre 14 et bientôt 24 ans. Et je conteste complètement l'idée qu'on puisse parler concernant un enfant de 11 ans d'une jeune fille. Donc, il faut protéger les enfants. Bien évidemment, il n'y a pas de consentement possible pour des relations sexuelles avec un majeur à cet âge-là, et même beaucoup plus tard, à mes yeux. Je pense qu'il faut protéger les enfants. Ils ont le droit de se construire sur le plan symbolique et d'élaborer leur rapport à la sexualité dans une construction symbolique sans se faire agresser par des adultes.
Beaucoup plus tard, Anne, vous avez 4 filles, vous les voyez toutes pousser différemment, j'imagine.
Alors, j'ai 2 filles, 2 garçons.
Ah d'accord, bah, alors voilà. Avec vos 2 filles, quand vous dites beaucoup plus tard, est-ce que ça vous... Alors c'est compliqué de mettre un âge, et c'est d'ailleurs ce qui va nous occuper jusqu'à 20h. Est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous formuleriez un âge vous-même ou pas?
Personnellement, je pense qu'on est quand même dans une société, effectivement, où il y a de plus en plus d'agressivité sur les enfants, etc. C'est vraiment des cibles. Il faut les protéger. Et je pense qu'il faut aussi protéger les adolescents. Je pense que la fonction de la loi, c'est vraiment ça. Donc moi, personnellement, je pense que la sexualité... je sais que dans la pratique, il peut se passer autre chose. Mais personnellement, je pense que la sexualité, ça doit être quelque chose de relativement tardif. Quand déjà beaucoup d'autres événements, la maturation, etc., affective, etc., ont eu lieu.
Et merci beaucoup, Anne. Merci de lancer le débat, qui va nous
merci
occuper
beaucoup.
Donc jusqu'à 20h. Et je vous en prie, pour répondre à votre question et pour débattre ensemble ce soir, Anne Révalévy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes pédopsychiatre, professeur de pédopsychiatrie et chef de service à l'hôpital d'Argenteuil. Bonsoir, Catherine Sultan. Bonsoir.
Bonsoir,
vous êtes magistrat à la Cour d'appel de Paris en charge des assises, vous êtes ancienne présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, et bonsoir Ovidie.
Bonsoir.
Vous êtes réalisatrice, productrice, auteure, ancienne actrice X, vous avez écrit un clic du pire chez Anne Carrière et qui parle de protection, on y viendra, protection des mineurs à l'épreuve du net. Anne Révalévy, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut répondre à Anne? D'abord, effectivement, sur les termes, et je veux bien rejoindre ce qu'elle dit, effectivement, quand j'ai dit, moi, jeune fille de 11 ans tout à l'heure, est-ce que ça commence par là, en fait. Fillette, dire jeune fille, donner des noms comme ça, donner des mots.
Alors, vous savez, on considère que l'adolescence, maintenant, c'est de 10 à 24 ans. Donc ça, c'est un âge élargi pour reconnaître qu'il y a un processus qui se passe, qu'il y a un processus à la fois biologique, psychologique, physique. Et il est vrai que quand on a 11 ans, on est encore très proche de l'enfance, on est encore dans l'enfance, même si on a amorcé probablement parfois des choses de la puberté. Donc il faut garder du vocabulaire qui différencie les moments de maturation. Et je pense que quand on parle de la sexualité, il faut bien insister, et vous le faites ce soir, hein, la sexualité entre adolescents, c'est pas la même chose qu'une sexualité entre un adolescent ou un préadolescent et un adulte. C'est-à-dire que là, les représentations doivent être vraiment différenciées et la question de l'expérience sexuelle à l'adolescence, entre adolescents, dans un mouvement de découverte, c'est quelque chose qui, a priori, ne regarde pas les adultes si ça se passe dans un contexte non violent et consenti. Par contre, quand c'est un adulte qui va venir s'intéresser au corps d'un adolescent pour une consommation sexuelle, il faut se poser la question de où en est le sujet, lui, qui est regardé comme un objet. Et ça, c'est vrai que la loi a quelque chose à dire pour laisser les enfants à leur place d'enfant. La loi a quelque chose à dire aux adultes. C'est les adultes qui doivent entendre que, bah non, un adulte n'a pas à coucher avec une gamine de 11 ans et qu'il faut essayer de cerner à partir de quand le sujet est à un moment où quelque chose de la sexualité adulte est possible, mais sereinement. Et ça, c'est pas au même âge pour tout le monde, mais moi, il me semble qu'en tout cas, 11 ans, c'est strictement impossible. 13 ans, c'est encore un peu jeune. Et j'aurais tendance à pousser plutôt vers 15.
Catherine Sultan, la loi dit quoi, très concrètement ?
Alors, la loi, elle exige, pour une relation sexuelle, qu'il y ait un consentement. Et la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, motivent au quotidien, enfin fréquemment, leur décision en expliquant que la différence d'âge, le fait qu'on a un enfant face à un adulte, ça signifie qu'il n'y a pas de consentement possible parce que l'enfant n'a pas l'information sur la sexualité, n'a pas la maturité et exactement dans les termes de ce qui vient d'être dit, a droit à être protégé d'une sexualité adulte qui ne peut que le détruire et l'envahir. Donc c'est une réalité, effectivement, une relation le viol peut être constitué et fréquemment jugé dans les cours d'assises, par exemple, ou traité par les juges des enfants, puisque j'ai été très longtemps juge des enfants également, comme des enfants victimes, puisque cette différence d'âge et la posture d'autorité de l'adulte par rapport à l'enfant l'implique.
Mais alors, est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'on essaye d'instaurer, c'est-à-dire un âge de consentement, ce qu'on essaye de trouver, et ce qui existe déjà, qui parle effectivement d'interdiction sur mineurs de moins de 15 ans, sinon considéré comme viol ?
Alors, ce qu'il aujourd'hui, c'est il n'y a pas. Alors il y a le texte dont vous avez parlé tout à l'heure qui sanctionne l'atteinte sexuelle quand c'est une relation sexuelle d'un adulte avec un enfant de moins de 15 ans. Moi, je trouve qu'il y a une erreur, souvent un abus de langage. On parle de majorité sexuelle. Mmh. Il ne s'agit pas de majorité sexuelle, c'est une limite qui est fixée aux adultes dans l'intérêt de la protection de l'enfant. Après, bien entendu, il faut que la loi soit fixe ses limites, mais il faut que la loi soit aussi suffisamment souple pour ne pas traiter de la même manière une relation qui pourrait y avoir entre un homme ou une femme de 19 ans avec une adolescente ou un adolescent de 14 ans, où il faut qu'il puisse y avoir une appréciation, qu'on puisse agir en opportunité, c'est un terme juridique également, pour adapter la réponse.
Mais au fond, donc, ça veut dire que ce n'est pas un âge de consentement dont la loi a besoin, c'est presque une différence d'âge de consentement, en fait, au final.
La loi, elle est là pour fixer des limites, elle est là pour protéger. Donc, il y a différentes manières. Je dirais, on peut fixer un âge avec la possibilité, alors, on dit, différentes possibilités ont été prononcées, donc, mais il faut qu'on conserve la souplesse pour pouvoir adapter la situation aux différents cas qui peuvent se présenter en fonction de l'âge, de l'histoire, de la maturité de l'enfant. Mais bien entendu, à 11 ans, on est un enfant, on doit être protégé d'une sexualité qui ne peut être qu'agressive et envahissante quand elle est exercée par un adulte. Enfin, là, il n'y a pas débat.
Et Ovidie, quand on parle de protection, justement, parce que c'est un peu tout votre débat aujourd'hui, votre combat et ce que vous écrivez, est-ce qu'aujourd'hui, les très jeunes filles, fillettes, on va dire, celles de 11 ans, sont moins protégées aujourd'hui, y compris par ce qu'elles reçoivent, ce qu'elles entendent, ce qui est accessible aussi pour les jeunes de cet âge-là, que ce soit les filles ou les garçons, d'ailleurs, selon vous ?
Je ne sais pas s'il y a vraiment un lien entre les deux, dans le sens où on n'a pas attendu l'hyper-accessibilité du porno pour qu'il y ait des cas de pédophilie. Donc, je ne sais pas s'il y a un réel lien entre les deux. Après, le fait est que aujourd'hui, les enfants, pas seulement les adolescents, mais vraiment les enfants, ne sont pas protéger des images pornographiques auxquelles ils ne sont pas censés avoir accès. Je parle volontairement d'enfants, puisqu'il y a un chiffre qui est tombé il y a quelques jours. Il y a à peu près 50% des garçons de 10 ans qui ont déjà vu une image pornographique. Et l'accès à la première vidéo pornographique aujourd'hui, les chiffres varient en fonction des pays en Europe, mais grosso modo, ça va de 9 à 11 ans. Donc c'est vraiment très très bas, c'est beaucoup plus bas que ça ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans, puisque de fait, les modes de diffusion de pornographie ont radicalement évolué. C'est-à-dire aujourd'hui, on a accès à une pornographie libre et gratuite H24, ce que n'autorise pas la loi française. Par ailleurs, donc aujourd'hui,
théoriquement,
voilà, ils y ont accès par leur smartphone, ils y ont pas accès par l'ordinateur du salon, ils y ont accès avec le smartphone qu'ils emmènent au collège, avec lequel ils s'enferment dans leur chambre le mercredi après-midi. Donc de fait, ils sont beaucoup moins protégés.
André Valévy, Ovidie a raison, on ne mélange pas tout, mais tout de même, est-ce que les lignes sont brouillées par ces nouveaux accès aujourd'hui, brouillées dans la tête de tout le monde finalement, dans la tête des très jeunes, dans la tête de même d'adultes en fait, ou de jeunes adultes?
Vous savez, on est dans un moment sans doute qui va amener à des modifications qu'on ne peut pas encore anticiper, mais les réseaux sociaux diffusent une aisance de violence au quotidien. Pas simplement la violence sexuelle, mais la violence au quotidien, la violence verbale. Et il y a sur Internet le moyen de découvrir de la violence à l'état cru.
C'est ce que je voulais dire, comme on ne reconnaît pas la violence, y compris quand on a 11 ans et qu'un type de 28 ans arrive face à vous. C'est aussi ça.
Parce que au quotidien, des images violentes sont distillées, jamais filtrées, jamais transformées, très peu expliquées par les adultes autour, et la sexualité en fait partie. Et il y a un défaut des adultes autour de cette période révolutionnaire que nous avons, il y a un défaut des adultes de comment on fait avec cette violence permanente, et la violence sexuelle en est un des versants, mais elle fait partie du reste, elle fait partie du reste du contenu, et là je crois que si on laisse circuler sans explication, sans penser à quelles sont nos modalités de prévention, d'accompagnement, eh ben on laisse les enfants livrés à toute cette violence, et la violence sexuelle a des effets sur le développement, a des effets sur les modalités de construction de son identité, de sa place de sujet social. Donc tout ça, on en est le témoin, et je trouve que collectivement, la société, les adultes, les instances, les tutelles regardent tout ça avec des discours, avec un moment peut-être même de fascination devant ce qui se passe, et peu de positions d'accompagnement réel, parce que c'est pas quand les ados ont vu des images pornographiques qu'il faut s'inquiéter, il faut commencer à se préoccuper de tout ça quand ils sont beaucoup plus petits, beaucoup plus jeunes, comment on accompagne, comment on éduque à ce que c'est un corps, à ce que c'est la sexualité, à ce que c'est le consentement. Mais ça commence à l'école primaire, ça commence pas à 14 ans dans les cours de sciences nat ou de prévention des MST.
Et on va y venir, je voudrais qu'on écoute Cyril. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu Cyril, on vous écoute.
Oui, le débat va dans mon sens. Oui, j'avais appelé pour dire que les jeunes, disons ceux qui ont maintenant 14 et 25 ans ont eu accès aux films pornographiques très de bonne heure par le biais de l'internet. Et dans les films pornographiques, bien souvent la femme a une multitude de partenaires, et ça dévoie complètement l'idée qu'ils ont des femmes. Ils s'imaginent qu'il faut plusieurs partenaires pour faire jouer une femme. Et d'ailleurs, quand ils parlent d'une femme, ils disent elle est bonne. Enfin, il y a un manque total de respect vis-à-vis de la femme. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Et maintenant, le gosse qui a eu accès à ce genre de film très jeune, sa vie sexuelle s'en ressent pour le restant de ses jours, je pense.
Merci beaucoup Cyril pour ces remarques. Catherine Sultan, pardon de vous ramener toujours au code civil et au code pénal, mais là aussi, il y a une loi, théoriquement, on n'est pas censé, quand on est si jeune, avoir accès à la pornographie.
Oui, il y a aussi une loi qui s'appelle l'autorité parentale, qui confie aux parents, et aux adultes hein, plus largement, la mission d'accompagner et d'exercer des responsabilités à l'égard d'un enfant. Alors oui, il y a des lois, une législation qui semble-t-il, largement contournée, insuffisamment appliquée. Il y a certainement à interroger les pouvoirs publics là-dessus. Mmh. Mais je pense que quand un enfant a accès au monde des adultes, quelle que soit la question, il faut qu'il soit accompagné, que ça chemine. Et d'ailleurs, on se rend compte que des enfants qui quand les parents sont en difficulté, ont des carences éducatives, et ben ces violences-là, elles sont reçues certainement d'une manière beaucoup plus brutale par l'enfant parce qu'il est laissé seul face à, ça n'a rien à voir d'être avec un adulte qui va vous expliquer, qui va vous dire non, qui va vous dire pourquoi non, que c'est dans l'intérêt de vous protéger. Donc moi on a une obligation de protection à l'égard d'un enfant, ça appartient d'abord aux parents. Quand les parents sont en difficulté, il y a des relais qui doivent être pris. La justice a sa part à prendre, mais c'est plutôt dans ces termes-là que je poserais le problème.
Et l'école, non? Les cours d'éducation sexuelle ressemblent à quoi, Ovidie? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Enfin, c'est 3 fois par an? Est-ce que c'est 3 fois par an, c'est ça? À partir de
mais
quel
déjà,
âge
tous les établissements ne mettent pas ça en application. En plus, le site Eduscol est quand même relativement flou quant à la qualité des intervenants. À qui est-ce qu'on confie ça? Parfois, c'est confié aux profs de SVT, mais je m'excuse bien, mais c'est pas parce qu'on a un CAPES de bio ou la grecque de bio qu'on est en capacité de parler de plaisir et de désir à des collégiens qui se posent énormément de questions. Dans le meilleur des cas, c'est le planning familial qui vient intervenir. C'est très bien. Si ça pouvait être tout le temps comme ça, ce serait parfait. Mais moi, on m'a rapporté des cas où c'était des associations familiales catholiques qui venaient dire en gros le porno, c'est pas l'amour. Ok, c'est très bien, le porno, c'est pas l'amour. Mais c'est pas les réponses qu'attendent les collégiens qui sont en face. Les collégiens qui sont en face, ils ont envie de savoir si la sodomie c'est obligatoire et si s'il faut si on est obligé de s'épiler intégralement. Enfin, ils ont il y a pas très longtemps, il y avait le dessinateur Silver qui tweetait qui lui intervient en planning familial et qui disait qu'il était intervenu auprès d'un collège et en arrivant le directeur d'établissement avait dit bon, on parlait pas trop de capote, les élèves ne savent pas encore ce que c'est et une des premières questions qu'on lui a posées c'est qui Jackie et Michel? Qui est Jackie et Michel? Donc un site porno très connu. Bon bah voilà, on en est là. Concrètement, ils en savent beaucoup plus, on est extrêmement frileux sur notre façon de s'adresser à nous. Je sais pas si tous les parents sont en capacité, parce que les parents aussi ont leur propre vie sexuelle, leurs propres troubles, leurs propres tabous, et se sentent pas forcément en capacité de le faire. Je pense pas qu'on puisse les fliquer non plus. Dès la sixième, les gamins restent quand même tout seuls, le mercredi après-midi à la maison. N'importe quel parent, parent de pré-ado ou d'ado le sait. Ils restent tout seuls à la maison, on va pas rester tout le temps sur leur dos, ni même fliquer leur historique de navigation, qu'ils sauront bien mieux que nous effacer de toute façon. Donc ils en verront, et toutes les catégories sociales, tous les enfants de toutes les catégories sociales environ, que ce soit à Neuilly-sur-Seine, ou que ce soit à Sarcelles, ou que ce soit en province, ou toutes les catégories sociales environ. De toute façon, après, ils ne seront peut-être pas tous égaux en termes d'accompagnement, en termes de, comment dire, d'éducation à l'image. Ça, c'est possible.
Anne Révalé, pardon, vous vouliez intervenir, Catherine Sultan.
J'associais avec plutôt une expérience pour les adolescents auxquels on peut reprocher d'avoir eux-mêmes être auteurs d'agressions sexuelles. Très, très fréquemment, quand on pose aux parents la question qu'est-ce que vous avez transmis aux enfants sur ces sujets-là, très souvent c'est ah mais ça on n'en parle pas. Et donc ça arrive quand même très fréquemment ce décalage en fait.
Moi je voudrais décaler un petit peu quand on s'intéresse à la sexualité des adolescents, en fait il faut reconnaître que la sexualité ça n'arrive pas à l'adolescence, c'est-à-dire que d'un coup la question de la sexualité ça tombe pas sur le nez d'un jeune de 13 ans. La sexualité c'est une construction depuis qu'on est tout petit. Les enfants, et c'est vrai qu'il y a des courants historiques, Freud a quand même bien explicité comment on se construisait avec des questionnements sur la vie sexuelle, le corps, l'autre, le désir, les interdits depuis très tôt. Et tout cet avènement autour de la puberté, des mouvements sexuels vers une sexualité adulte, ce sont des choses qui se sont construites par étapes avant. C'est-à-dire ça n'arrive pas d'un coup de nulle part. Et je pense que c'est important, quand on a un regard de prévention, d'accompagnement, de commencer bien en amont, parce qu'on peut accompagner des sujets à comprendre ce que c'est un corps, le sien, l'autre, le changement des relations, qu'est-ce que c'est l'attrait, le refus, la proximité des corps, l'inquiétude devant les corps, mais on commence avant, bien avant, pour pouvoir...
Mais avant, c'est quoi? C'est quand? C'est très difficile, ça aussi.
Moi, je pense que dès l'école maternelle, en adaptant les messages, on peut accompagner les petits-enfants à ce que c'est une relation, à ce que c'est la différence des sexes, à ce que c'est l'attirance, le rejet, le monde des adultes. Ça peut commencer extrêmement tôt. Et on voit, dans le mouvement, on peut revenir sur un autre point, tout ce qui se passe autour de la violence sexuelle sur les femmes, le balance ton porc, MeToo. Vous croyez que la prévention de ces actes de violence violence, c'est en s'intéressant aux adultes de maintenant. Mais bien sûr que non. L'éducation à être ensemble, à se respecter, à comment on peut avoir envie de coucher avec quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir envie et d'imposer ou de ne pas imposer, qu'est-ce que c'est une violence, mais ça s'éduque depuis tout petit. Et tant qu'on ne veut pas construire une société avec des sujets qui sont en développement, mais qu'on croit qu'il faut, hop, au moment où l'événement arrive, se dire « Tiens, là, je vais faire de la prévention, ils ont 15 ans, ils boivent trop, ils fument trop et ils ont une sexualité pornographique », mais c'est trop tard, c'est pas comme ça que ça marche.
Et alors, j'imagine que dans cet accompagnement-là, ce qui nous ramène aussi aux raisons pour lesquelles on a eu envie de discuter à ce sujet, savoir dire non, savoir comprendre à quel moment il y a agression de la part de quelqu'un, ça va ensemble, non? Mais là aussi, il faut le dire, peut-être. Il faut apprendre ces signes-là aussi.
Oui, il faut les apprendre, mais il faut les apprendre à tout âge, parce que ça se construit à l'intérieur de soi. Ce qu'on est à 15 ans, c'est une révolution, mais c'est une révolution qui s'inscrit dans une construction. Donc, non, qui je suis, qui est l'autre, comment je m'approche, comment je n'impose pas qui je suis à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est la violence entre nous, ça c'est dans une construction relationnelle, c'est dans une construction de sa place dans un groupe, de sa place comme garçon ou comme fille. Donc évidemment, ça s'éduque rapidement, tôt, pas en attendant le décalage de la puberté et des événements violents subis sur Internet.
Bonsoir Martine.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Martine, on vous écoute.
Moi, je me posais la question de savoir pourquoi on posait cette question, en fait, parce que pour moi, je me suis quand même interrogée sur le fait que on laisse planer un doute, comme si une petite fille de 11 ans avait pu donner des circonstances atténuantes à un homme de 28 ans. Et donc, je pense que là, on a quand même, enfin, moi, j'entends là-dedans quelque chose qui ne me plaît pas, à savoir que des enfants peuvent peut-être avoir des attitudes provocantes, peut-être. Mais en même temps, je me dis qu'un adulte doit pouvoir se dire qu'il y a une interdiction, et je pense que les parents ont toute leur place. D'autre part, j'ai bien suivi ce que vous avez dit, et en même temps, je pense que je suis un peu gênée d'entendre dire que tous les enfants sont liés à la pornographie, etc. Tous les enfants n'en voient pas, et tous les enfants n'en verront pas, et tous les enfants ne sont pas dans l'incertitude. Malheureusement, je pense quand même qu'il y a des parents qui ne sont pas éducateurs non plus, et que dans notre pays, on a beau dire, on est très pudibond et on ferait bien de s'arrêter un petit peu, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes filles qui sont avortées, et ça aussi, ça me pose un gros problème, parce que ça veut dire que tous nos réflexes d'éducation sont à revoir complètement.
Merci beaucoup Martine, je vous entendais réagir Ovidie. Effectivement, c'est pas tous les enfants et systématiquement et chacun d'entre eux, mais beaucoup et sûrement trop en fait qui ont ce genre d'accès dont parlait Martine à l'instant.
Ouais, enfin quasi tous, hein. Mais il y a eu beaucoup de choses différentes là qui ont été abordées, l'avortement, le consentement, l'accès à la pornographie. Donc je ne sais que répondre.
Mais ça veut dire, ça parle encore une fois, ça parle d'éducation une fois de plus. Et Martine, j'imagine, parlait de l'avortement des très jeunes filles. Oui, mais ça passe par l'éducation aussi, l'éducation sexuelle.
Cette histoire même d'hyper-accessibilité au porno, ça peut aussi donner l'occasion d'aborder des questions de santé sexuelle, des questions de prévention, des questions d'IST, des questions de consentement. C'est peut-être justement un bon prétexte pour ouvrir la discussion sur ces sujets-là. Mais je ne suis pas sûre que tous les parents soient partants.
André Valévy ?
Oui, moi je voulais juste dire une chose, c'est que moi je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie, c'est-à-dire que la violence sexuelle faite aux enfants, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est-à-dire que c'est nous, dans les services de psychiatrie, si vous saviez le pourcentage de violences subies dans l'enfance parmi nos patients, c'est parfois jusqu'à 80% des histoires. Bon, ça, et je pense que dans la population générale, et on l'a bien vu avec l'augmentation des signalements d'agressions sexuelles par les femmes ces derniers temps, c'est un fléau. Et Il faut quand même à un moment se poser la question de qu'est-ce qu'on fabrique nous-mêmes, la société, qu'est-ce qu'elle fabrique pour que cette violence-là soit devenue une espèce de banalité. Alors là, maintenant, il y a des mouvements, maintenant, on va essayer, mais il y a quelque chose qui me gêne, au fond, parce que on sait que c'est un enjeu majeur de nos sociétés, de ces violences sexuelles, et la question de l'accessibilité à la pornographie participe de ça aussi. On peut pas faire semblant, ça participe de ça, parce que la pornographie véhicule des messages de violence sexuelle, et ça, on ne peut pas faire semblant. Moi, je veux bien qu'on m'explique qu'il y ait du porno pas violent, violent. Moi, je n'y crois pas. Je crois que l'acte sexuel cru, comme ça, des images à répétition, ont une potentialité de violence.
Mais du coup, on interdit, on fait quoi?
Non, bien sûr que non. Les adultes sont des grands, ils se débrouillent. Je vais pas passer pour une... dans mon service, ils rigoleraient s'ils m'entendaient parler. Mais non, bien sûr que non. Mais je crois qu'il faut bien se représenter que ça véhicule une vraie banalisation d'une violence relationnelle et que ça devient presque... c'est possible, quoi. Les relations peuvent être violentes, les relations sexuelles peuvent avoir de la violence. Souvenez-vous de la tribune de Madame Deneuve et de leurs collègues. Moi, j'aime beaucoup Catherine Deneuve, mais quand on explique que dans la sexualité, il y a une violence naturelle potentielle qui en fait partie, oui, bien sûr, quand on est adulte et qu'on peut la réguler et qu'on sait à quoi ça correspond, mais de considérer que toute cette violence, finalement, c'est normal, regardez où nous en sommes, quoi.
Vous vouliez intervenir, Catherine Sultan.
Oui, je voulais intervenir pour dire, enfin, dans la continuité de ce qui se dit, c'est que on parle d'éducation et c'est peut-être certainement plus une question d'éducation que de loi. Parce que des lois sur ce sujet, il y en a eu énormément. Depuis la fin des années 80, il y a eu une vraie sensibilisation et heureusement, après un mur du silence sur les questions d'inceste, sur les abus sexuels que pouvaient subir les enfants, avec une sensibilisation de tous les professionnels qui sont en contact avec les enfants, avec des lois qui ont tenté, même si on n'est pas encore au bout de on n'a pas abouti au résultat idéal, à ce que les procédures policières et les procédures de justice soient capables de prendre en compte qu'un enfant victime d'abus sexuels, c'est pas la même chose qu'un adulte, c'est pas la même chose qu'une autre violence, que les violences sexuelles doivent pas non plus cacher les violences physiques ou les violences morales qui peuvent peser sur les enfants. On a un arsenal législatif extrêmement important et ce serait un risque de penser qu'on va régler le problème en fixant une limite simplement. Je veux dire, même si peut-être que l'interdit doit être précisé, alors qu'il existe, je le sais. Mais voilà, ce serait un petit peu simple de dire on fait une loi et ça règle le problème. Le problème, il est certainement beaucoup plus profond et relève plus de l'éducation précoce.
Mais est-ce que vous avez vu changer les choses dans les tribunaux? Est-ce que vous avez vu des cas être très différents aujourd'hui qu'ils pouvaient l'être avant? Je vais reposer la question comme ça. Cette histoire de Pontoise, par exemple, elle a lieu là, elle aurait pu avoir lieu il y a 10 ans, il y a 15 ans, ou est-ce qu'il y a un certain nombre de choses dont vous avez le sentiment qu'ils ont changé parce que des barrières ont été floutées ou pas?
Je pense que l'évolution dans les tribunaux, c'est que ces questions sont traitées. Que de très nombreuses affaires, de trop nombreuses affaires, et effectivement, les publics que l'on rencontre sont un peu les mêmes et souvent les mêmes que ceux qui vont dans les services de pédopsychiatrie. Énormément d'enfants sont victimes d'agressions sexuelles. La justice est saisie d'un nombre très important d'affaires de ce type-là, on n'a pas à s'en satisfaire. On peut s'en satisfaire en se disant ça veut dire que on ne cache pas le problème et qu'il est traité et qu'on reçoit ses plaintes et qu'elles sont entendues. Ça veut aussi dire que c'est un fléau, comme ça vient d'être dit. J'en suis tout à fait d'accord.
Bonsoir Anne-Marie. Anne-Marie, vous êtes là? Anne-Marie,
oui.
Ah ben voilà, on vous avait perdu. Allez-y Anne-Marie, on vous écoute.
Alors moi, je suis éducatrice spécialisée depuis 30 ans et j'ai travaillé longtemps en internat. Maintenant, je travaille dans un service de protection de l'enfance et sociale à l'enfance. Et malheureusement, au cours de ma carrière, j'ai assisté à des procès d'enfants qui étaient placés, d'enfants mineurs, vulnérables et qui avaient été abusés, à mon sens, c'est le sens d'Anne-Marie, par des adultes. Voilà. Et dans deux cas que je n'oublierai jamais, ces enfants ont été déclarés consentants. Et pour moi, un enfant n'est pas consentant. Un enfant placé, c'est un enfant vulnérable, en carence affective, qui a des éducateurs en face de lui, qui cherche à travers eux une image des parents qui n'ont pas eu et qui sont forcément très vulnérables. Et qui sont des proies, excusez-moi du terme, mais là, comme on se lâche un petit peu à l'heure actuelle en France au niveau des termes, voilà, pour moi, ces enfants, ce sont des proies. Les jugements leur ont été défavorables et je trouve ça vraiment regrettable parce que une enfance, il ne faut pas la rater, notamment quand on est à l'aide sociale à l'enfance parce qu'on est déjà en réparation.
Merci beaucoup Anne-Marie pour votre question, pour vos remarques et pour votre passage dans le téléphone sonne. André Valévy, on peut difficilement pas être d'accord avec Anne-Marie, ceci dit.
Difficilement. La vulnérabilité des enfants placés, c'est un enjeu très important. Je pense qu'on peut considérer que la vulnérabilité des enfants, ça, c'est deux termes qui vont ensemble, quoi. Un enfant, c'est structurellement vulnérable, psychologiquement vulnérable, et qu'en effet, alors là, je suis pas forcément... moi, je pense que la loi doit porter des messages. Je suis pas du tout juriste, donc je n'ai pas de représentation de la cohérence d'un propos comme ça, mais j'ai tendance à penser que la loi est là pour bien transmettre aux adultes les limites qui sont posées en termes de messages, pas forcément, pas en attendant forcément beaucoup plus, mais c'est pour ça que moi je suis un peu gênée quand j'entends Monsieur Molins dire que de sa place à lui,
Molins, oui.
Monsieur, voilà, qui par ailleurs nous protège au quotidien, quand Monsieur Molins dit moi je pense que 13 ans c'est bien, moi ça me gêne, je trouve que c'est un message qui est un message qui pour le coup ne reconnaît pas la question de la vulnérabilité et a tendance à laisser penser que après c'est l'affaire, c'est aux enfants eux-mêmes à faire l'énoncé de leur propre protection. Et moi, je crois qu'il vaut mieux poser des limites symboliques qui disent, bah voilà, les adultes considèrent que vous êtes vulnérables jusqu'à plutôt 15 ans et que, au-delà, on peut réfléchir à dans quel contexte ça se passe. Mais voilà, moi, j'attends beaucoup d'énoncés qui disent que les adultes considèrent comme étant les limites acceptables.
Ovidie, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut, est-ce que la loi doit effectivement porter des messages et donner une limite à un moment, dire un chiffre, quoi qu'il en soit?
Alors moi, je suis absolument pas compétente pour dire ce que doit être la loi, donc je me garderai bien de le faire. Simplement, il y a quelques interrogations qui ont circulé, je vois, dans le microcosme féministe dans lequel j'évolue. On s'est posé beaucoup de questions sur jusqu'à quel point ça pouvait, par exemple, dissuader des jeunes filles de 14 ans, par exemple, si, par exemple, ça devait être 15 ans, des jeunes filles de 14 ans qui sont au début de leur vie sexuelle, jusqu'à quel point ça pourrait les dissuader ou non de franchir la porte du planning familial pour obtenir une contraception gratuite, pour avoir éventuellement accès à l'avortement. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui se sont posées à ce niveau-là et je me dis tout n'est pas forcément évident. Enfin,
rien n'est simple.
Enfin, je sais pas. Moi, quand encore j'avais 15 ans, j'étais avec un garçon de 19. J'étais parfaitement consentante. On était très heureux tous les deux. À cette époque-là, j'ai été contente de pouvoir être accueillie en planning familial, qu'on me parle de contraception, qu'on me dise quels étaient les différents modes de contraception auxquels je pouvais avoir accès, sans avoir à avoir peur de me dire oh là là, mon Dieu, mais si ça se trouve, il pourrait être accusé d'eux.
Et voilà. En même temps, 15-19 n'a rien à voir avec 11-28.
Je ne parlais pas de 13. Et de toute façon, je ne suis pas compétente pour dire il faut que ce soit 13, 14, 14 et demi.
Et moi non plus, je veux dire.
Je dis juste qu'il y a un certain nombre d'interrogations qui ont été soulevées autour de ça en disant mais est-ce que du coup elles oseront, des gamines de 14 ans, si c'était 15, est-ce qu'elles oseront franchir la porte du planning familial pour demander éventuellement de l'aide?
Et c'est toute la difficulté, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, entre 15 et 19, effectivement, on est dans une toute autre perspective, on est dans une toute autre découverte de sexualité.
Ans, hein,
exactement.
Hein.
Ni 11 ans et ni même 28 ans pour le partenaire éventuel. Catherine Sultan qui voulait intervenir.
Juste redire que la limite, elle s'adresse à l'adulte.
Bien
et qu'elle ne doit pas être une entrave à la vie sexuelle qu'un adolescent, auquel un adolescent a droit. Hein, et que déjà il y a un texte de loi aujourd'hui, une loi qui a été votée en 2010, qui dit que la différence d'âge importante constitue est constitutive d'une absence de consentement. Donc l'arsenal juridique aujourd'hui doit permettre de protéger complètement les enfants. Après, voilà.
J'ai une interrogation, Ovidie, parce que je crois que la réponse est dans votre livre. Est-ce que l'âge des premiers rapports sexuels a changé en même temps que l'arrivée de la pornographie, etc., etc.
Non, je crois qu'on est toujours à peu près à 17 ans et demi. Hein, et même le nombre de partenaires pour les jeunes filles de moins de 25 ans, je crois qu'il est toujours à 3, je ne sais plus combien. Enfin, ça n'a pas beaucoup évolué. En revanche, ce qui a probablement évolué, c'est l'élargissement de panel de pratiques, ça c'est sûr. C'est un rapport au corps qui est probablement différent. Et puis même, on voit dans les interventions scolaires que les questions ne sont pas les mêmes, qu'avant, ça tournait beaucoup beaucoup autour des questions de grossesse non désirée, de d'IST. Moi, j'ai grandi dans les années SIDA, donc nous, notre hantise, c'était comment est-ce qu'on pouvait attraper une maladie. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, je vois quand même, j'ai quand même pas mal de gens autour de moi qui interviennent en milieu scolaire, qui me rapportent, voilà, beaucoup de questions qui tournent autour finalement de représentations qui peuvent avoir
des questions plus crues, des questions plus nettes,
Plus des questions de pratique en fin de compte, plus des questions de pratique et des questions d'épilation, des questions de normes, de se conformer à une norme, des questions d'injonction sexuelle, à quoi doivent ressembler leur sexe, etc. C'est vraiment une question de se conformer à une pseudo-norme.
Anne-Réva Lévy, avant qu'on retourne au standard rapidement.
Pas de confusion, la sexualité à l'adolescence, normalement, ça ne regarde pas les adultes, en fait. Ils se débrouillent entre eux, ils font des expériences, et d'avoir une relation sexuelle à 15 ans avec un jeune homme de 19 ans, ce n'est pas un sujet. Ça ne nous concerne même pas, normalement. Alors, bon, voilà. La discussion problématique, c'est quand un adulte vient, lui, décider qu'il veut de la sexualité de quelqu'un de bien, bien plus jeune. Là, on est dans un autre contexte. Je ne voudrais pas qu'on passe pour
absolument.
Des...
Absolument. On a bien compris.
Voilà,
c'est bien clair pour tout le monde. Et c'est d'ailleurs dans cette direction-là que vous allez, Gilbert. Vous êtes le dernier, c'est important. Allez-y.
Oui, bonsoir. Bah, tout à fait. Entre la dernière intervenante et puis la personne au préalable qui a parlé des sanctions, moi, je voulais dire que depuis que j'ai écouté l'émission, j'avais l'impression que la culpabilité, elle était chez les enfants, voire les adolescents. Bon, c'est vrai le thème de l'émission, mais je pense qu'il ne faut jamais oublier, c'est le comportement de l'adulte. Et que si on... Il faudrait une autre émission, je pense, sur ce comportement-là. Et parce que si on ne décide pas de sanctions pour l'adulte, ça veut dire que tous ceux qui sont mal intentionnés, les pervers et autres, vont avoir un blanc-seing pour continuer ce genre de... comment dire, de faire, enfin de...
On a bien compris, Gilbert, où vous vouliez nous emmener, et vous avez raison, et Catherine Sultan, là-dessus, on va le répéter et le re-répéter. Oui, évidemment que la loi est claire et on ne confond rien de ça.
On ne confond pas, bien entendu, c'est l'adulte qu'on sanctionne, et c'est l'adulte à qui on donne une limite. Je voudrais juste dire qu'on a parlé, et c'est, finalement c'est très bon signe que les deux affaires dont vous aviez parlé, que vous avez évoquées, ont beaucoup ému et ont fait la une de l'actualité. Mais on ne parle pas des affaires aussi extrêmement nombreuses où des adultes sont condamnés, sévèrement condamnés, parce qu'ils ont commis des viols ou des agressions sexuelles sur des enfants ou des adolescents. Je veux dire, bon, la justice est perfectible, elle est humaine et c'est sa force, mais il faut également évoquer ces questions-là. Parfois, c'est des affaires qui sont parfois complexes, la preuve est compliqué à rapporter, donc bon, bien entendu, je pense à l'intervenante de tout à l'heure, l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, qui a eu une expérience que je peux imaginer très traumatisante et injuste, mais beaucoup d'adultes sont condamnés pour des faits de cet ordre-là aujourd'hui dans nos cours d'assises.
Tiens, voilà Juliette, bonjour, j'ai toujours encouragé mes enfants à poser des questions sur tous les sujets. Les plus épineux arrivent depuis 3 ans et rien n'est tabou, je préfère savoir ce qu'ils ont dans la tête et les aider à comprendre pour se construire une opinion pour l'accès aux films porno, internet, etc. J'ai expliqué pourquoi je suis vigilante à mon fils de 13 ans qui l'a compris. Enfin, on imagine qu'il l'a compris, on espère qu'il l'a compris et j'imagine que ce qu'il a répondu aussi, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, et ce sera en guise de conclusion, Anne-Réva Lévy, parler aux enfants, leur expliquer comment ça marche, ce qui est interdit, ce qui est tabou, et comment dire non aussi, évidemment.
Oui, parler, dire ce qu'on pense, soit de sa place d'adulte, et écouter ce que l'adolescent, lui, a comme représentation, avec des confusions parfois sur les différents sujets, et puis aussi pouvoir dire, bon, avec moi, c'est pas forcément facile d'en parler, mais il y a d'autres interlocuteurs que les parents sont des bons interlocuteurs, mais parfois on peut trouver d'autres adultes en milieu scolaire, au planning familial, ils font un travail formidable avec une capacité de discussion très ouverte sur toutes ces thématiques. Il n'y a pas que, il y a
des
associations.
Il faut savoir où les trouver.
Oui,
faut avoir et
les parents, peuvent aider à trouver d'autres interlocuteurs si besoin. Ils peuvent être une première étape de discussion, mais ne pas s'inquiéter si tous ces sujets ne sont pas abordés avec eux directement, parce que encore une fois, la sexualité des ados avec leurs parents, c'est une thématique un peu difficile à explorer.
Catherine Sultan, ce sera la conclusion. Si jamais il y avait, enfin d'ailleurs, il va y avoir un âge de consentement, il va y avoir tout ça probablement un peu après la fin du mois. Est-ce que ça rendra les choses plus compliquées finalement dans les tribunaux ou pas ?
Il faut, même s'il y a un âge, il faut qu'il y ait une souplesse suffisante pour pouvoir apprécier au cas par cas, parce qu'il peut y avoir un enfant, une adolescente de 16 ans qui est vulnérable et immature et qui n'est pas en capacité de donner son consentement. Et il peut y avoir un enfant, une adolescente de 14 ans ou de 13 ans qui, dans une situation particulière avec un très jeune adulte, aurait un rapport équilibré. Donc il faut garder cette souplesse, mais il faut fixer des limites aux adultes.
Allez, garder la souplesse, mais fixer une limite et la fixer évidemment aux adultes. Merci à tous pour vos appels et merci de votre participation au Téléphone Sonne.